Aider les logements sociaux.
C'est vrai.
Ensemble.
Un, deux.
Encore.
Trois, quatre.
À cadence.
Un, deux, trois, quatre.
Bonjour, bonsoir, vous écoutez Voix de Fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit sur les ondes de CKIA 88.3. Vous êtes en compagnie de Nicolas
et Farouko.
Alors cette semaine, c'est une équipe réduite, un peu comme la station en ce moment. On va en parler un peu plus tard dans l'émission, mais ça n'affectera pas la qualité de Voix de Fait, tout comme non. Ça n'affecte pas la qualité de ce que vous entendez sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Alors, cette semaine, de quoi on parle? Ben d'abord, il y a les blagues. On va passer notre chronique de blagues. Il y a le Frappru qui faisait une occupation jeudi dernier. Jeudi dernier, il occupait trois bureaux de ministère dans trois villes différentes pour obtenir une rencontre avec le ministre Laurent Lessard. Donc, c'était, entre autres, ce que vous entendiez dans notre thème. Il y a un reportage sur la coalition, la nouvelle coalition régionale de Québec, Chaudière-Appalaches, contre la tarification et la privatisation des services publics. Ce nom-là me rentre pas dans la tête. J'ai beau essayer autant que je peux, ça ne marche pas.
Fait un acronyme.
Ouais, mais là, tu sais, en tout cas, la coalition 0312. Donc, et sinon, on a aussi un reportage sur les cercles du silence, reportage qui nous a été ramené par notre bouillant collaborateur François. Donc, tout ça sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec, et on commence avec les blagues.
Ouais, une chanson. Tout de suite qu'on te balance les blagues. Blagues et chansons, tiens, t'es capable d'en prendre.
Youhou!
La blague anarchiste. C'est quoi la différence entre la religion catholique puis la démocratie libérale? La religion catholique, c'est la soumission des êtres humains à d'autres êtres humains à partir de la peur d'une puissance abstraite, tandis que la démocratie libérale, c'est le contraire, mais sans la puissance abstraite. C'est quoi la différence entre les isoloirs des églises puis les isoloirs des bureaux de vote? Les isoloirs d'église, c'est le lieu où on se débarrasse de nos péchés. Les isoloirs de bureau de vote, c'est le lieu où on les commet. C'est quoi la différence entre les catholiques puis les électeurs? Le maître des catholiques, il est immortel. Celui des électeurs, il est mortel, mais il se réincarne tous les 4 ans. C'est quoi la différence entre les étagères puis les hiérarchies? Il n'y en a pas. Plus c'est haut, puis moins ça sert. C'est quoi la différence entre le siège social d'une multinationale et un tombeau? Aucune. Les deux ont du marbre en façade, mais cachent en fait beaucoup de verre et de pourriture.
Ce que vous allez combattre, monsieur, dame, des barbares. Des barbares qui détruisent le patrimoine. Nous avons des convictions démocratiques.
Conan, qu'y a-t-il de mieux dans la vie? Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes.
Nous sommes très fiers de vous. Merci.
Si tout va bien, dis-moi pourquoi tu la cherches. Je reste en mousse, tu vois pas que l'équipe est derrière. Mis à part, ça fait boum, entend briser les verres. C'est la bague qui débarque, qui vient chercher la mer. Et la peur part en vague si on regarde de travers. Je parle à ceux qui ont rien à perdre, prêts à plonger dans le vide comme le parcours d'un kamikaze sous une ceinture explosive. Ne crois pas que tout va bien, jusqu'ici on survit tous les jours comme l'instant. Avant d'enfiler la cagoule, charger le capouse, rentrer dans la banque, bouge pas. Jusque là, tout va bien sur le battement de ton cœur.
si on progresse.
Pendant combien de temps
épuise dans les caisses
sans regarder devant.
Là j'ai le sourire, mais mate les jeunes. À 10 ans ils ont déjà la peur de mourir. Tout va bien au Niger, crève de faim nos titres, nos putains de poulets en agrippe. Les riches s'agrippent à leurs privilèges, leur country club de merde. Ils lâchent rien car ils ont trop peur de le perdre. Jusqu'ici je demeure un homme libre. Ils rêvent de cramer mais c'était comme un livre. Jusqu'ici on avance,
le temps serrant les dents.
Droit vers l'extrême, la peur, le stress est dans.
Jusqu'ici tout va bien.
Jusqu'ici tout va bien.
Jusqu'ici tout va bien.
Et on attend le reste pour accomplir nos destins.
Jusqu'ici tout va bien.
Jusqu'ici tout va bien.
Jusqu'ici tout va bien.
Et on attend le reste pour accomplir nos destins.
Jusqu'ici tout va bien.
Jusqu'ici tout va bien.
Jusqu'ici tout va bien.
Et on attend le reste pour accomplir nos destins.
Jusqu'ici tout va bien.
Jusqu'ici tout va bien.
Jusqu'ici tout va bien.
Et on attend le reste.
Jusqu'ici tout va bien, ils ont vu la fin du monde. Dans peu de temps, car elle reste bombe. Prête à changer le cours de l'histoire. Qui, elle par contre, n'a rien à foutre de l'espoir. Comme ceux qui disaient que le hip-hop était mort. Vous pouvez constater comme un sens de bord. Jusqu'ici tout va bien, ils se feuillent le prou. Et tu verras dans pas longtemps, pis ce que l'on court. Accroché aux peu de choses qui restent chez nous le savoir. Jusqu'ici tout va bien, on n'a pas nos savoirs. Fier de notre arrêt de l'avoir. On chérit chaque jour, grande de sa gloire.
Jusqu'ici tout va bien, le riche exploite le pauvre. La douane n'a pas vu ton corps. Ça part pas en couille dans la foule. Tu te prendras pas de mauvais coups dans la bouche. Tiens bien le savon dans la douche. L'étape de que tu te couches, tu mates le spectacle de la touche. Rien à foutre, on vit nos vies. On est tombé dans vos vices. Mais là, on est bien loin des novices. Poto, c'est chaud, tout va trop vite. Jusqu'ici, tonton peiné, on en profite. On a le profil de ceux qui explosent à l'improviste. Quand le sol s'approche, on improvise.
Jusqu'ici, tout va bien.
Jusqu'ici, tout va bien.
Jusqu'ici
et on attend le reste pour accomplir nos destins.
Jusqu'ici tout va bien.
Jusqu'ici tout va bien.
Jusqu'ici tout va bien.
Et on attend le reste pour accomplir nos destins.
Jusqu'ici tout va bien.
Jusqu'ici tout va bien.
Jusqu'ici tout va bien.
Et on attend le reste pour accomplir nos destins.
Jusqu'ici tout va bien.
Jusqu'ici tout va bien.
Jusqu'ici tout va bien.
Et on attend le reste.
Oui, on vient d'entendre tiré de l'album L'égalité dans la différence de MC Arabica. Jusqu'ici, tout va bien. Un petit clin d'œil. La haine, ce grand film français.
C'est un classique. Donc, nous sommes toujours à Sequoia 88.3 à Québec. Vous écoutez Voix de Fée, vous allez entendre un reportage le premier de la semaine.
Nous sommes des locataires.
C'est vrai.
Tannés d'être mal logés.
C'est vrai.
Nous voulons des logements.
C'est vrai.
Mais des logements sociaux.
C'est vrai.
Ensemble.
Jeudi le 9 décembre 2010, des militants du Frappru ont occupé les bureaux du ministre Laurent Lessard à Montréal, Québec et Thetford Mines afin d'obtenir une rencontre pour parler de logement social.
Il y en a pas de logement, il y en a pas de logement. S'il y en a, ils sont pas pour nous. S'il y en a, s'il y en a, s'il y en a, ils sont chers, s'il y en a, s'il y en a.
Véronique Laflamme, porte-parole du Frappru.
Depuis qu'il est en poste, le Frappru l'a rencontré une seule fois. C'était là, pas longtemps après son arrivée, mais pour faire des présentations générales. Et on se disait, bon, le ministre et son personnel va s'intéresser un petit peu aux problèmes vécus, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les enjeux au niveau du logement, c'est quoi les besoins, qu'est-ce que je peux faire en tant que ministre. Malheureusement, le temps a passé et le ministre n'a toujours rien fait et n'a toujours démontré aucun intérêt ni aucune disponibilité. Donc, il y a eu un premier budget l'an passé qui nous a inquiétés parce que dans le plan de lutte à la pauvreté, il y a un élément important qui fait partie de la lutte à la pauvreté, c'est le logement social. Et le logement social, il y avait seulement 3000 unités pour 5 ans. Alors que dans l'ancien plan de lutte, il y en avait 16 000 en 5 ans. Et que le ministre le gouvernement de M. Charest et de M. Lessard s'était engagé en campagne électorale à faire 3000 logements par année sur 5 ans. Là, on se retrouve avec non seulement 3000 unités pour 5 ans, on ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine. Donc, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Et à chaque fois, à chaque budget, on met le logement dans la balance des choix budgétaires. Mais plus encore, il y a un scandale actuellement au Québec. C'est que, puis c'est dans le reste du Canada aussi, le scandale, c'est qu'il y a des gens qui sont très mal logés et il y en a beaucoup, beaucoup trop. Des gens qui, selon les chiffres même du gouvernement, sont dans une situation de besoin impérieux de logement. On parle de 270 000 ménages locataires au Québec. Donc, ça n'a pas d'allure. Et le ministre, non seulement il fait semblant de s'intéresser à ça, mais il fait comme si ce problème-là n'existait pas. Alors, on lui a demandé une rencontre pour lui parler de nos revendications, pour changer les choses, pour améliorer nos conditions de vie. Et depuis plusieurs mois, dans le fond, il ne répond tout simplement pas aux demandes de rencontre. C'est pour ça que malheureusement, on est rendu à un stade où il faut prendre des moyens plus sérieux pour se faire entendre. Et c'est pour ça que dans les différents groupes membres du FRAPU, on a décidé aujourd'hui d'aller occuper les bureaux du ministre pour obtenir un rendez-vous. Donc, on reste là. Je vous rappelle qu'à Tessonneuil, présentement, le bureau de circonscription de M. Lessard sont occupés par l'Association des locataires de Sherbrooke et qu'à Montréal, les gens sont dehors. Là, il y a une manifestation à Montréal et une occupation avec, une, comme nous, là, une douzaine de personnes du bureau là, du ministère de l'Habitation. Donc, on reste là. Là, c'est vraiment notre avis de l'histoire. Les gens qui sont partis.
Pour des loyers qu'on peut payer, il faut autre chose que du privé.
Pour des loyers qu'on peut payer, il faut autre chose que du privé.
Le FRAPU a mis fin aux occupations vers 11h15 après avoir obtenu confirmation d'une rencontre avec le ministre Lessard dans la semaine du 20 décembre. Il doit aussi rencontrer le ministre des Finances, Raymond Bachand, au cours des prochains jours dans le cadre de ses consultations prébudgétaires.
Pour des loyers qu'on peut payer, il faut autre chose que du privé.
Pour des loyers qu'on peut payer, il faut autre chose que du privé.
Et depuis la rédaction de ce reportage, on a appris que la rencontre aurait lieu carrément lundi, le 20 décembre. C'est minuit moins une, mais on l'a eu, la rencontre. Aujourd'hui, au Québec, pour rencontrer un ministre, pour lui parler de politique sociale, il faut occuper son bureau. C'est le message. Donc, voilà. Sinon, juste vous dire, la semaine dernière était une semaine occupée pour le Frappru, sans jeu de mots, en fait, avec un jeu de mots poche de ma part. En fait, le jour où il y avait les occupations dans trois bureaux du ministre, il y avait aussi la Société canadienne d'hypothèque et de logement qui rendait public là, son... comment ils appellent ça? Son rapport sur le marché locatif, dans lequel on apprend sans surprise que ça va pas bien. En fait, écoutez, la pénurie demeure vive, y compris dans la région métropolitaine de Québec. D'ailleurs, c'est assez particulier de constater que les médias en ont si peu parlé. Alors, on est à 1% de taux d'inoccupation à Québec.
C'est, on a glissé un mot à Radio-Canada cette semaine pour dire que c'était une bonne nouvelle.
Ben oui, on est passé de 0.6 à 1, mais le taux d'équilibre, c'est quand même 3. Et, et puis voilà, on a des hausses de loyers très importantes dans les dernières années. Imagine-toi donc que dans la région de Québec, on a eu des hausses de loyers de 34% dans la dernière décennie.
Ça suit pas ma paye, ça.
Ça suit pas ta paye, ça.
En fait, c'est plus ma paye qui suit pas ça.
Juste l'année passée, ça a augmenté de 3%, toi, le logement. Fait que, voilà. Il y en a pour qui ça fait l'affaire, hein, les hausses, la pénurie de logements locatifs.
L'an passé, j'ai perdu 1% de salaire, moi.
Fait que voilà, c'est ça. C'est juste pour vous dire que finalement, ça va pas bien en matière de logement. Et c'est pour ça que, tu sais, on peut se dire, ouais, là, ça fait 10 ans, là, ils vont s'arrêter de nous casser les oreilles avec ça. Ben non, on va continuer de vous casser les oreilles avec ça tant que ça sera pas réglé. Puis, ben, c'est plate à dire, mais ça sera pas réglé tant qu'il y aura pas une socialisation du parc de logements locatifs. C'est pour ça, entre autres, que le Frappru revendique 50 000 logements sociaux en 5 ans.
Ça va être long.
Ça va être long. Mais c'est ça. Bref, des coops, des OSBL, des HLM, ça n'en prend. En veux-tu, en v'là, parce que ce qui se construit actuellement, étant donné quelques légers changements démographiques dans les 20 dernières années, malheureusement, c'est pas abordable pour les locataires.
En plus, c'est con.
Le seul logement locatif qui se construit, c'est du logement coop.
Oui, mais les seuls... les fois où je parle avec des gens de droite ou des X, whatever, sur le logement, puis qui acceptent de parler, là, ben... Quand tu leur expliques c'est quoi une coop avec la mixité sociale, toute la kit, puis qu'au fond, ça coûtait vraiment rien à l'État comparé les HLM, toute la kit, ils sont tous d'accord.
Ben, en fait, toute proportion gardée, ça coûte moins cher un HLM qu'un supplément au loyer dans le marché privé.
Non, mais le c'est HLM, fric, il est à la charge complète de l'État.
Il est à la charge complète de l'État, sauf qu'il y a l'actif aussi, par exemple.
Ouais, l'actif. L'État et tout ce qui compte là-dedans, c'est les frais d'entretien, la bâtisse.
Ouais, globalement, un coup qui est payé le maudit HLM, là, ça coûte moins cher qu'une subvention loyer dans le privé.
Est-ce que c'est mieux?
Ben, je pense que c'est mieux d'avoir un HLM qu'une subvention loyer dans le privé. Là.
Non, mais je parle dans les coops, avoir des subventions loyer ou des tours d'HLM comme à Vanier.
Ah ben non, mais non, mais non, on préfère des coops. Mais de toute façon, ça, les tours d'HLM comme dans Vanier, là, c'est très particulier parce que la majorité des logements HLM au Québec, c'est pas des tours, c'est des immeubles de moins de 40 logements. Fait que c'est vraiment... ils ont fait des horreurs dans les années 70, on est pogné avec. Évidemment, il y a personne qui veut les démolir, les dites tours, parce que Chris, ça loge du monde. Pis,
ils sont tout le temps pleines.
C'est ça, là, il faut quand même... Moi, je serais pour là, qu'on les démolisse, là, les tours d'HLM dans la belle ville de Québec, si on me garantit qu'on va en construire autant.
T'sais, en fait, qu'on les construise avant de démolir ça.
C'est ça, c'est
on
ça.
On ne fera pas avoir...
On fera pas comme à Baltimore, là, où est-ce qu'on a démoli sans reconstruire. Mais bon, on est pris avec ces affaires-là, puis c'est vrai que ça n'a pas... C'est pas un milieu intéressant dans lequel je voudrais aller. Sauf que on s'entend-tu que, je veux dire, des gâteaux de logements locatifs de tours aussi, c'est pas plus intéressant là, si c'est dans le privé. Fait que tant qu'à ça, tu vas aller quelque part, est-ce que ça va être moins cher? Ou est-ce qu'il va avoir une vie communautaire? Puis où est-ce que tu vas avoir une association de locataires qui va peut-être pouvoir te défendre tes droits ou au moins organiser un party de Noël? Puis peut-être des organisateurs du communautaire, du CLSC qui vont venir organiser de l'aide aux devoirs, tu sais. Tant qu'à ça. Préférable les HLM.
Aller louer dans une tour privée, c'est vraiment, selon moi, la dernière option. De...
Ouais, quand t'as pas le choix. Ouais. Mais aujourd'hui, au centre-ville de Québec, écoute, le logement social, le logement des ménages de classe moyenne, parce que c'est juste plus possible.
Mais non, c'est clair.
Dans du logement là, de qualité équivalente là, dans le privé, là, ça a juste pas de maudit bon sens.
Mais ils viennent de se bâtir juste à côté. Moi, je suis dans une coop. Ils viennent de se bâtir un bloc à côté de chez nous. Pas un bloc, là, mais un 6 logements. Le même appart coûte, c'est 400 pièces de plus par mois.
Ouch!
C'est juste à côté. En plus, il est plus mal situé que le mien. Tu sais, il est vraiment mal placé.
Socialise-moi ça, mon homme. On va-tu en musique?
Oui!
Ah, au oui. retour, on va voir le reportage sur la coalition dont je tairai le nom parce que j'arrête pas de me tromper. C'était quoi cette harmonie mélodique dans mes oreilles?
C'était Bolchoï avec Violence Rouge et Colère Noire.
Sur les ondes de CO... de... Ouh, sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec, où d'autres pourriez-vous entendre pareil désastre, pareil musique?
Arrête, c'est spécial dédicace moquette. Je sais qu'aime ça.
Non, mais personnellement, j'aime bien, là. Mais c'est ça, il faut que je garde ma réputation, hein. Donc, c'est toujours Voix de Fait, c'est toujours Sequoia, c'est toujours le 88.3, vous êtes toujours à Québec. Et vous allez entendre un reportage que je vous ramène joyeusement.
Vous avez...
13 décembre 2010 à l'auberge L'Autre Jardin, dans une conférence de presse aujourd'hui pour annoncer le lancement officiel de la coalition régionale de Québec Chaudière-Appalaches opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. Ça va commencer dans quelques instants et dans la salle, plusieurs des 40 groupes membres qui sont présents. On reconnaît des gens du conseil régional de la FTQ, du conseil central Québec Chaudière-Appalaches de la CSN, des gens du REPAC, un groupement d'éducation populaire en action communautaire, des associations étudiantes aussi, l'Association générale des étudiants et étudiantes du collège François-Xavier Garneau, et finalement des groupes populaires comme le Bureau d'animation, information et logement, l'Association défense des droits sociaux, les Amis de la Terre, le Comité populaire, Rose du Nord, etc. Alors ça va commencer dans un instant. Il y a 4 porte-parole, 4 femmes qui représentent 4 secteurs d'intervention unis dans la coalition, un mouvement syndical, un mouvement étudiant, un mouvement communautaire et un mouvement des femmes. Il y a Nathalie Côté du REPAC qui va faire le mot d'ouverture.
Bienvenue. Nous sommes heureuses d'annoncer la création de la coalition de Québec et Chaudière-Appalaches opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. Notre coalition a été créée pour unir nos voix contre les politiques antisociales du dernier budget du gouvernement libéral. Avant d'entendre nos propres paroles, permettez-moi de faire un bref retour sur la création de la coalition. C'est à la suite de l'invitation du REPAC que nous avons lancé en septembre dernier que la coalition s'est formée autour de groupes communautaires, de groupes de femmes, de groupes de défense collective des droits, d'associations étudiantes et de syndicats. Depuis, 40 groupes de la région ont signé la déclaration de principe de la coalition. Cette déclaration dénonce les coupures dans les services publics, l'instauration de tarifs en santé, l'augmentation des frais de scolarité et revendique une répartition plus juste de la richesse. À l'instar des mouvements progressistes qui se mobilisent partout au Québec, la coalition de Québec et Chaudière-Appalaches viendra elle aussi à la défense des services publics.
On va écouter Anne Gingras, présidente du Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches de la CSN, qui en dit un peu plus long sur la perspective syndicale dans la conjoncture actuelle et dans la nouvelle coalition.
Juste vous dire que dans la région de Québec Chaudière-Appalaches, on se questionnait depuis fort longtemps au niveau de le vent de droite qui souffle sur la région, au niveau de l'organisation plus soutenue de la droite. Et on s'est aperçu qu'on n'était pas seul à se questionner, que l'ensemble des membres du groupe au niveau de la nouvelle coalition régionale se questionnait. Alors, c'est avec enthousiasme qu'on a accepté l'invitation et qu'on a adhéré à cette nouvelle coalition. On pense que si on veut vraiment faire une différence, mais nos forces, nos voix doivent être unies. Et on doit absolument faire en sorte de démontrer qu'on est capable de faire autrement en matière de finances publiques, qu'on est capable de faire autrement au niveau des services à la population et de développement économique, et qu'une autre voix puisse être entendue. On est très fiers de porter les valeurs de solidarité, de justice, de redistribution équitable de la richesse, de développement économique durable, de création d'emplois de qualité, parce que ce sont là les valeurs qui sont à la base d'une société où il fait bon vivre. Mais à la base de cette qualité de vie-là, on trouve nos programmes sociaux, on trouve nos services publics. Alors lorsqu'on parle de santé, services sociaux, frais de garde, hydroélectricité, éducation, fonction publique, ce n'est que quelques exemples. C'est des formidables outils de redistribution de la richesse qui sont nos services et programmes. Ils constituent des remparts contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Pourtant, on dit ici, les hauts salariés, les plus riches, ils peuvent payer plus pour les services. Mais il est de loin plus équitable de maintenir l'accessibilité pour tous et pour toutes. C'est par le biais de l'impôt que nous devons mettre à contribution l'ensemble de la société, contrairement à ce qu'a fait le gouvernement. Aujourd'hui, on nous dit qu'il manque d'argent, il faut absolument procéder à des coupures. Pourtant, il a accordé des baisses d'impôts déjà de 5 milliards de dollars. Le dernier budget d'Achan, 31% d'efforts étaient demandés aux contribuables, aux particuliers, contre seulement 7% pour les entreprises. 4 fois plus de plus pour nous, les contribuables. Et là, on attend de plus en plus, et c'est de plus en plus présent avec l'arrivée du prochain budget en 2011, le ministre Bachand tente de nous faire accroire que les compressions annoncées, qui ont déjà commencé à sortir la semaine dernière, vont se faire sans nuire aux services à la population. Pourtant, les services ne sont pas désincarnés. Les derrière les services donnés, les services dispensés, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont au quotidien au service de la population. Il y a plusieurs personnes qui ont été frappées par les effets de la crise économique. On attend donc du gouvernement des mesures fortes qui viendraient favoriser le maintien et la création d'emplois de qualité, le développement des compétences des travailleuses et des travailleurs qui puissent mieux faire face aux changements dans le marché du travail. On est d'avis que le développement de notre région doit être durable, respectueux de l'environnement et ça doit être une région, particulièrement la région de Québec, Chaudière-Appalaches, qu'on veut se réapproprier et on veut que ça soit une région très respectueuse de tous et toutes, que ça ne soit pas un jeu en fonction de notre portefeuille de tous et chacun.
On écoute Marie-Ève Duchesne de Rose du Nord, le regroupement des femmes sans emploi du Nord de Québec.
Bonjour. Alors, les groupes populaires communautaires, les groupes de femmes de la région de Québec et Chaudière-Appalaches appuient aussi cette coalition régionale. Les groupes communautaires travaillent quotidiennement avec les effets néfastes de la pauvreté. La pauvreté est bien présente dans la région. Donc, c'est clair que pour nous, c'est important de s'opposer à tout ce qui va attaquer le portefeuille des personnes qui sont déjà les plus pauvres, comme le fait le gouvernement libéral actuel. Comme je disais, dans la région, la pauvreté est bien installée. D'ailleurs, dans la dernière année pour la région, il y a une augmentation de 7,5% des personnes qui ont recours aux banques alimentaires dans la région. De ce nombre-là, il y a 15% des gens qui ont des revenus d'emploi. Donc, c'est plus seulement les gens qui sont sans emploi qui sont attaqués directement par la pauvreté, mais c'est aussi les gens qui sont en situation de travail. Je pense que c'est une preuve que l'écart entre les riches et les pauvres fait juste augmenter dans les dernières années. Donc, même si l'emploi ne suffit plus à sortir de la pauvreté, c'est clair que là, les besoins de base des gens ne sont pas couverts. Hein. On a de la misère à avoir un logement convenable. On a de la misère à s'habiller, à s'alimenter comme il faut. On peut dire que ce ne sont pas des facteurs-là qui nous permettent d'avoir une bonne santé comme personne. Les groupes populaires communautaires de la région travaillent avec ces gens pour qui chaque frais additionnel que le gouvernement va imposer menace la santé et la qualité de vie. Présentement, ce que le gouvernement nous propose, c'est une augmentation de 2% de la TVQ. C'est une augmentation des frais d'hydroélectricité et ça, peu importe le revenu annuel des personnes. Pour une personne à l'aide sociale qui a un revenu annuel de 6 800 $ par année, on s'entend qu'une hausse, même considérée faible par l'État, ça fait mal. On va imposer aussi une taxe sur la santé à toutes les personnes qui gagnent 14 000 $ et plus par année. Ce qu'on voit, c'est que même les gens qui travaillent au salaire minimum, qui ont des revenus faibles, n'arrivent pas à s'en sortir actuellement. Donc, pour eux aussi, d'imposer ces taxes-là et ouvrir la porte à ce genre de taxes-là, on le sait que ça ne s'arrêtera pas à 25 $ par année. Donc, ça ne fera qu'augmenter avec les années. Les femmes seront plus durement touchées aussi par la privatisation, la tarification des services publics et par le désengagement de l'État qui est amorcé déjà depuis un bon moment. Les politiques de privatisation conduisent inévitablement à un déséquilibre dans le partage des richesses. Elles touchent durement les personnes les plus pauvres de la société. Or, les femmes sont globalement plus pauvres que les hommes. Elles ont des salaires plus bas, elles ont moins accès à l'emploi, à la syndicalisation, elles ont moins de sources de revenus. Lorsqu'elles travaillent, leur salaire est plus bas que celui des hommes. Elles sont surreprésentées dans les emplois précaires et à temps partiel. La mise en place de services publics a grandement contribué à dégager les femmes de nombreuses tâches qui leur étaient traditionnellement dévolues, ce qui a contribué à leur émancipation. Plus encore, les emplois de qualité offerts par le système public ont largement été occupés par des femmes. La transformation du rôle de l'État et le démantèlement des protections sociales affectent ainsi particulièrement les femmes. Le gouvernement transfère aux familles et aux communautés les services publics sous forme de travail non rémunéré. Et ce sont les femmes qui devront assumer ces responsabilités. Lorsque le système fait défaut, ce sont généralement les femmes encore qui prennent en charge les personnes laissées pour compte au détriment de leur santé et de leur autonomie économique. Elles représentent entre autres 75% des proches aidantes. Elles sont nombreuses à réduire leurs heures de travail ou même à quitter leur emploi à cause de soins qu'elles prodiguent. En outre, les femmes constituent 80% de la main-d'œuvre dans le réseau de la santé, des services sociaux et dans le milieu communautaire. Les coupes dans le système public transforment l'organisation du travail et suscitent surcharge de travail, stress et burn-out. Par ailleurs, les groupes de femmes et les groupes communautaires subissent une pression grandissante pour pallier les manques du système public. Ces organismes sont tiraillés entre leur mission de changement social et de défense des droits et la nécessité de répondre aux besoins criants des personnes laissées abandonnées par le système public. Les femmes sont en action depuis le 12 octobre dernier dans la région de Québec avec les actions de la Marche mondiale des femmes. Aujourd'hui, les groupes populaires et féministes unissent leurs voix aux syndicats, aux étudiants et étudiantes pour qu'ensemble nous puissions faire reculer le gouvernement, que nous puissions continuer la lutte contre les tarifs et la privatisation des services publics.
Bonjour, moi je suis Alexandra Desbiens, militante étudiante à Agarmouth. Et nous, justement, à travers les différentes associations étudiantes de Québec, Chaudière-Appalaches, nos étudiants nous disent qu'avec le nouveau budget, les nouvelles tarifications, les étudiants seront plus capables d'aller à l'école si hausse il y a encore, parce que maintenant on ne parle plus de dégel, mais bien de hausse. Les étudiants, si les prêts des bourses ne suivent pas, si les services publics ne suivent pas, l'étudiant moyen n'aura plus le moyen simple d'aller à l'école. En ce moment, les étudiants ont environ 7$ par jour pour se nourrir, ce qui n'est pas suffisant déjà. Et justement, la tarification et la privatisation de ces services-là ne les aideront pas. Ensuite, joindre la moyenne canadienne qui est autour de 5 000$ par année pour étudier. Si les services publics ne suivent pas, les étudiants ne pourront plus suivre. Et justement, cela créera une marchandisation de l'éducation, alors que l'éducation est grandement décriée comme étant un droit au Québec et au Canada. Les étudiants ne demandent qu'à étudier, mais il faut leur laisser la chance de pouvoir étudier. Et c'est ce qu'ils décrivent depuis le 1er avril dernier et depuis la sortie du budget. C'est que ce budget-là est dangereux pour les étudiants, pour l'éducation en tant que telle, parce que les jeunes veulent étudier, ils veulent aller à l'école, ils veulent aller à l'université, mais ils n'en ont pas les moyens en ce moment. Et tout ce qu'ils demandent, c'est d'avoir la possibilité d'y aller. Mais pour ça, le gouvernement doit les aider. Et justement, si le gouvernement se déresponsabilise de l'éducation et n'aide pas ses étudiants proportionnellement à leurs besoins, ça créera un débalancement et justement, les étudiants, les élèves mieux nantis auront la possibilité d'aller à l'université tandis que les autres ne pourront pas, ce qui créera encore un plus grand déséquilibre et ça empêchera les jeunes de continuer dans leur cheminement scolaire. Donc les étudiants nous demandent et demandent au gouvernement, donnez-nous les moyens, ce n'est pas un non-vouloir d'étudier, mais nous voulons étudier, mais pour ça nous devons avoir la possibilité d'étudier. Et si vous ne nous en offrez pas le moyen, nous sortirons et nous nous ferons entendre. Et on a déjà commencé et nous continuerons avec la coalition et aussi à travers les différents regroupements étudiants.
En terminant, j'aimerais rajouter que les membres de la coalition, dont la liste s'allonge chaque jour, veulent démontrer qu'il y a des alternatives aux tarifs et aux privatisations pour enflouer les coffres de l'État. Par exemple, instaurer une fiscalité plus progressive, comme Anne l'a déjà dit tout à l'heure. Donc, ajouter une fiscalité plus progressive, établir un équilibre entre la contribution des particuliers et des entreprises, augmenter les redevances sur l'exploitation des ressources naturelles. Ce sont que quelques exemples que nous donnons comme alternative. Dans les prochains mois, des ateliers d'éducation populaire auront lieu dans différents quartiers de la ville de Québec et dans la région de Chaudière-Appalaches afin de débattre de solutions à apporter aux problèmes actuels. Soyez certains et soyez certaines que vous entendrez parler de nous pendant l'année 2011, car nous serons en action pour faire reculer le gouvernement et défendre les services publics.
Bon sang, on vit en société, on pourra-tu avoir des moyens collectifs pour organiser cette société-là?
Oh, never hit your grandma with a shovel.
Vous écoutez Voix de paix!
Lost my job, lost my home, lost my... lost my car, lost my dog. Wasting reasons already abound. Well, what the hell are you waiting for? Bring the walls down. Don't wait around and see what the future might bring. Cause we can't take no chances with those kind of things. And don't put off till tomorrow what you can do now. Don't wait for tomorrow. Revolution now. In the beginning, when this country was new, revolution fought democracy for you. And now it's coming back with a new kind of sound. Real power for the people and spread it all around. Don't wait around to see what the future might bring. Cause we can't take no chances with those kind of things. And don't put off till tomorrow what you can do now. Don't wait for tomorrow. Revolution now. Around. Stop bringing it down. Stop that fucking around. Stop dragging us down. Don't wait around to see what the future might bring. We can't take no chances with those kind of things. And don't put off till tomorrow what you can do now. Don't wait for tomorrow. Revolution now.
Mathieu, tu vois déjà ça, j'aime mieux ça. C'était quoi?
Ça, c'est The Press. C'est un de ceux qui se revendique le premier groupe Oi américain.
Oui, mais il y a une belle voix, c'est écoutable, c'est pas trop rock. C'est
voilà.
Un peu garage, mais ça fait plus punk rock que classique, d'autres choses. Il y a un peu plus de distorsion dans le son. Tu as l'impression que c'est un vinyle qui joue, mais sinon...
C'est bien, ça.
Très intéressant. Alors, c'était sur les ondes de Sequoia 88.3 Québec, toujours dans le cadre de Voix de Fait. Puis là, on s'en va sur un reportage sur le circuit du silence.
Au rayon des amours à vendre, on m'a mis à 17 ans. Je n'ai pas cessé d'apprendre.
Donc, je suis actuellement au Sac du silence, un événement qui se produit à chaque mois. C'est au coin Parvis et Saint-Joseph. Et il y a comme ça une dizaine de personnes comme ça qui se réunissent autour d'une lanterne pour en solidarité avec les femmes prostituées.
Passe l'amour et passe les regrets.
Et je suis en compagnie comme ça de Mme Rose Dufour, qui est directrice de la Maison de Marthe. Et Mme Dufour est docteur en anthropologie de la santé. Bonjour Mme Dufour.
Bonsoir monsieur.
Donc dites-moi, est-ce que la prostitution, c'est un métier?
Non, définitivement pas. C'est une erreur de penser ça. Il n'y a aucun métier qui demande aux personnes de mettre le sexe de la personne au service de l'autre. Ce n'est pas un choix non plus, de notre point de vue. Je travaille quotidiennement avec des femmes qui en sont venues à se prostituer depuis 10 ans. Je n'en connais aucune qui fait ça par plaisir ou par amour du sexe. Elles le font par pauvreté. Elles le font parce qu'elles sont en survie dans leur propre vie. Elles le font en conséquence de la destruction de leur vie qui a précédé leur entrée dans la prostitution, parce que dans la très grande majorité des cas, ce sont des femmes qui ont vécu des enfances extrêmement difficiles, avec beaucoup d'abus sexuels, agressions sexuelles, en fait, tous les types d'abus sexuels, inceste, etc. Des femmes qui sont amenées à se prostituer, soit parce qu'elles sont en fugue, elles sont adolescentes, donc elles sont en fugue, elles ont quitté la maison, sont dans des lieux d'accueil, etc.
Donc ce sont des femmes précarisées.
Ah, tout à fait. C'est des femmes très pauvres. Bien sûr, on en connaît qui sont ce qu'on appelle des call girls, etc. Mais ce sont des exceptions. Je n'en connais pas, moi, qui ont fait de l'argent. C'est des femmes qui ne sont pas capables de capitaliser leur argent, etc.
Ouais, alors, ça, c'est intéressant. L'argent, qui est-ce qui profite des gains de ce trafic-là?
En fait, elles font de l'argent parfois pendant un certain temps. Il y a certains jours, certains soirs, certaines nuits. Mais à quel prix? Passer 10 hommes pour qui elles ne sont rien et qui sont rien pour elles, des femmes qui détestent l'odeur de l'homme en face, qu'elles n'aiment pas, qu'elles ne connaissent pas. Comme dit l'une d'entre elles, faut tellement être fuckée.
Il y a des clients, il y a des salauds, il y a des clients, il y a des salauds qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau. Faut pourtant qu'elles les cajolent, parole, parole, faut pourtant qu'elles les cajolent.
Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, des femmes qui disent que moi, j'ai choisi la prostitution et je suis heureuse à travers ça, je peux m'épanouir à travers ça?
Il y a plusieurs explications. La première, il y a des femmes qui sont forcées pour le faire. Il y a d'autres femmes qui sont payées pour le faire par l'industrie du sexe, par les... Il y en a d'autres qui sont dans un discours féministe pro-prostitution, parce que le féminisme est partagé en deux. Alors, il y a un groupe de féministes qui disent « Ah, c'est la libération sexuelle, les femmes peuvent avoir les mêmes activités sexuelles que les hommes, avoir le même type de liberté. » ce qui est absolument... je n'ai rien contre la sexualité, je n'ai rien contre la libération sexuelle, la liberté sexuelle, mais justement, en l'occurrence, elles ne le font pas pour le plaisir sexuel et pour la libération sexuelle, elles le font pour l'argent. Il n'y a aucune autre raison de le faire. Puis il y a un deuxième groupe de féministes qui, eux autres, disent, bon, ben, mais non, ça n'a pas de bon sens, offrir son sexe à un inconnu, etc. Et pour travailler avec elles depuis 10 ans, et d'ailleurs, j'ai fait une immense recherche pendant... toutes ces années avec elle, et je continue de le faire, j'en vois toutes les conséquences. Ce sont des femmes qui sont démolies. C'est des femmes qui n'ont plus aucune activité sexuelle. C'est des femmes dont la sexualité est complètement anéantie, qui n'ont plus de désir. C'est des femmes qui perdent toute leur sensibilité physique et corporelle, et des femmes qui vont jusqu'à la décorporalisation, c'est-à-dire une déshumanisation de la personne parce qu'elle n'éprouve plus aucune sensibilité.
Qui se détachent de leur corps.
Elles se détachent, oui.
Madame Dufour, vous avez parlé justement du féminisme. Il y a des féministes aussi qui disent que la prostitution, c'est un viol.
Exact.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, je suis d'accord. Au départ, je n'y aurais pas pensé moi-même, mais les femmes elles-mêmes le disent. Je me paye pour me faire violer. C'est un viol. Et les femmes elles-mêmes le disent, oui, je suis obligée maintenant de comprendre que définitivement, oui, c'est une forme de viol. Les femmes, d'ailleurs, se font violence pour pouvoir le faire. Parce que spontanément, on ne peut pas avoir envie qu'un inconnu nous touche comme ça. Imaginez une femme qui rencontre 10 hommes à répétition dans une journée.
C'est quoi la moyenne à Québec, là, par exemple, pour les prostituées? Combien d'hommes ils peuvent voir?
Ah, c'est très, très difficile de répondre à cette question-là. Il faudrait leur demander. Il y en a plusieurs, d'ailleurs, qui sont au cercle de silence ce soir. Selon les formes de prostitution, c'est très différent aussi. Hein? Dans la rue, dans les agences d'escorte, dans les salons de massage, il y a énormément de prostitution, dans les bars de danseuses. Les isoloirs, exact. Merci. Alors, il y a dans certains endroits beaucoup de prostitution qui se passe. Alors, je ne vais pas répondre à votre question, mais je sais que ça peut monter très haut et que les femmes disent que ça peut aller jusqu'à 10, parfois 15. Et lorsqu'elles sont sous le contrôle d'un proxénète, elles sont parfois obligées de faire des très longues heures, sinon elles sont battues. Mais bon, là, je parle de cas extrêmes.
Les sous, croyez pas qu'elles les volent. Parole, parole. Les sous, croyez pas qu'elles les volent.
Donc voilà, le sac du silence, c'est... Et comme ça, il reste une dizaine de femmes qui sont en cercle respectueux autour d'une lanterne au parvis de l'église Saint-Roch. Et puis on sent un profond respect, un recueillement de ces femmes-là. Et une grande solidarité envers, envers les femmes exploitées. Et puis juste à côté, ben, il y a les femmes de la maison de Marthe qui distribuent des tracts comme ça aux passants. Il fait pas chaud, il faut être très courageux pour participer au sac du silence en ce moment. Et là, il y a des gens qui disent bon, on doit décriminaliser, d'autres gens qui disent qu'on doit criminaliser. Vous, votre position, c'est...
Je crois que l'innovation va du côté de l'abolition de la prostitution. Les gens nous taxent d'être d'extrême droite, ce qui est absolument ridicule. Moi, je crois que nous sommes au contraire d'extrême gauche. Être pour la prostitution, c'est être dans le conformisme avec cette vision de la femme qui doit être disponible pour la sexualité des hommes, pour l'exploitation des hommes. Une sexualité qui n'est pas une sexualité, d'ailleurs, c'est de la génitalité pure et simple, et une sexualité irresponsable de la part des hommes. Alors là, on est vraiment dans l'archaïsme, le Moyen-Âge. Et les pays les plus avant-gardistes sont les pays scandinaves. La Suède a aboli la prostitution en 1999 après l'avoir autorisée depuis... l'avait autorisé avant et puis elle a décidé d'abolir les revenus sur sa décision, ce qui est merveilleux. La Norvège a suivi en 2008 et l'Islande vient de le faire en 2009. Ah oui. Et même en Islande, en 2010, ils ont aboli les bars de danseuses parce qu'ils considèrent, les bars de danseuses nues, parce qu'ils considèrent que ça fait la promotion de la prostitution, ce qui est extraordinaire. Et ça, pour moi, c'est être avant-gardiste, c'est innovateur, c'est être de gauche. Je reviens à votre question.
Mais en fait, c'est qu'il y a des critiques sur ce modèle-là. Par exemple, aux Pays-Bas, il y a eu des gens qui disent que bon, ça a accru au contraire la misère des femmes prostituées.
Oui, c'est faux. C'est faux. D'ailleurs, l'information qu'on a de la Suède, bien sûr, on comprend que ça ne s'abolira pas aussi rapidement, pas aussi facilement, bien sûr. Mais il y a eu une véritable révolution des mentalités en Norvège. Il y a eu une éducation des hommes. Il y a eu de l'aide qui a été donnée aux hommes. On a criminalisé le clientélisme et le proxénétisme.
C'est ça la question, c'est qu'on décriminalise la femme, mais les clients, exact. Les proxénètes...
sont poursuivis. Et on les aide aussi parce qu'il y a des systèmes d'aide, de la thérapie, des groupes d'entraide, etc. Venir en aide aux hommes. Il y a tout un programme d'éducation des hommes, éducation également, une éducation massive aussi de la population à une nouvelle vision. Parce qu'il faut comprendre que tant qu'il y aura de la prostitution, il ne peut pas y avoir d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est impossible. Mm-hmm. Et tant qu'il y aura un groupe de femmes qui se prostitueront, qu'on acceptera qu'un groupe de femmes se prostitue, on accepte une sous-catégorie d'êtres humains exploitables sexuellement, alors que ce sont des femmes déjà blessées par la vie. Parce qu'une femme qui n'a pas été blessée par la vie et qui a eu une vie... satisfaisante, elle va pas se prostituer.
Je suis le vieux Père Noël, bienfaiteur de l'humanité. Contre sa bile, je m'insurge avec mon pote Saint-Nicolas. J'ai tout ce qu'il faut dans ma hotte, sans le tonnerre et les éclairs, pour bien purger toute la clique des infâmeurs de l'univers.
Et je vous signale que là, on commence le mois de décembre, la période des fêtes sans bien. Et il y a beaucoup plus de prostitution parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas d'argent pour acheter des cadeaux de Noël et qui vont aller se prostituer pour acheter des cadeaux de Noël à leurs enfants, à leur famille, etc. C'est pathétique.
Madame Dufour, est-ce que la police fait partie de la solution ou du problème?
Ah, mon Dieu! Là, vous avez une belle grosse question. Dans certains cas, c'est vrai que la police fait partie du problème, puis dans d'autres cas, la police fait partie de la solution. Évidemment, ça dépend du comportement de la police. Il y a eu récemment une chasse aux femmes prostituées ici dans Saint-Roch. On en a arrêté 8, à ma connaissance. Et ça, pour moi, c'est une tragédie. Ça, pour moi, ça révèle un mépris des femmes. Une ignorance de ce qu'est le phénomène de la prostitution. Parce que si les policiers avaient compris la réalité de la prostitution, s'ils étaient bien informés, ils ne feraient pas ça. Ils s'occuperaient des clients. Alors, dans ce cas-là, ils font partie du problème. Dans d'autres cas où la police vient en aide aux femmes, ne les méprise pas, mais les respecte et essaie de leur tendre une main secourable en s'occupant des clients. Ils font partie de la solution, bien sûr. Ces hommes-là ont des femmes et des filles. J'espère pour eux que jamais leurs femmes ou leurs filles se prostitueront.
Qu'est-ce que c'est le cercle du silence?
Le cercle de silence existe maintenant depuis 19 mois, alors un peu plus d'un an et demi. Nous avons commencé au mois de juin 2009. Le cercle de silence est une manifestation pacifique, un cri d'alarme sur la banalisation de la prostitution. J'ai pris cet exemple-là d'une manifestation qui s'est faite en France. D'abord, la première manifestation, elle s'était faite en Amérique du Sud, je crois, au Chili, où les femmes avaient manifesté sur les places publiques avec les photos de leur fils et de leur mari faisant silence qui avaient été tués.
Ça, c'était à l'époque de la dictature. C'était pour dénoncer la dictature.
Exact.
C'était pas nécessairement pour
l'exploitation. C'était pas du tout pour la... C'était pour la dictature, le meurtre de leur mari et de leur fils. Ça a été repris... C'est bête, la date m'échappe, je crois, en 1997, mais je ne suis pas certaine de ma date, par les franciscains en France, où ils ont commencé à manifester, eux, pour les sans-abri. Et actuellement, ils sont rendus à plus de 150 cercles de silence en France et en Belgique. Et en voyant ça, j'ai dit, « Ah, mon Dieu, c'est la chose qu'on doit faire. » Je ne voulais pas qu'on se mette à hurler, à crier dans les rues. Je ne veux pas ressembler aux gens qu'on dénonce. Je ne veux pas être dans la violence. Le premier pas pour sortir de la prostitution pour les femmes, c'est d'entrer en elles, d'entrer en contact avec leur nature profonde, de retrouver leur vie, leur corps, leur existence, leur destinée. Donc, il y a une pratique, il y a une forme de pratique de silence, c'est-à-dire d'intériorisation, d'intériorité. Alors, il m'apparaissait naturel qu'on fasse un peu le même, c'est-à-dire qu'on se recueille en soi, qu'on fasse silence, et puis que notre silence attire l'attention. Alors, c'est un cri d'alarme par le silence.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir.
La pornographie est de la prostitution filmée et les femmes le dénoncent parce que la pornographie va très loin dans les gestes qui sont posés. C'est une véritable acrobatie. Il y a plusieurs partenaires. Toutes les ouvertures de la femme sont utilisées. Le malheur de la société contemporaine, c'est que le modèle de la pornographie est quasiment le modèle qui est devenu d'apprentissage à la sexualité des jeunes hommes. Et puis le modèle de la femme prostituée, c'est-à-dire le modèle de la femme qui est consentante à faire tous les gestes, à coucher avec n'importe qui, c'est devenu un modèle qui est le modèle offert aux jeunes femmes. Et c'est ce qui nous fait arriver à la conclusion qu'on ne peut pas aller plus loin que ça, ça n'a pas de bon sens. Il faut arrêter cette sorte d'escalade, je dirais.
À la porte des maisons closes, c'est une petite lueur qui luit, quelque chose de faiblard, de discret, une petite lanterne, un quinquet. Mais sur Paris endormi, une grande lueur s'étale, une grande lueur grimpe sur la tour. Une lumière toute crue, c'est la lanterne du bordel capitaliste.
Il y a votre collègue, là, que je me souviens plus de son nom, là, qui a fait beaucoup de travail, qui a travaillé beaucoup sur la
prostitution. Monsieur Richard Poulin, qui est sociologue à l'Université d'Ottawa, oui, sur la traite des femmes.
Sur la traite des femmes, lui, il parle aussi de l'appétit des hommes pour le pouvoir.
Oui, définitivement, parce que dans une relation prostitutionnelle, la femme est payée pour faire ce qu'il veut. Et les hommes sont très passifs dans la relation prostitutionnelle. Ils laissent la femme agir. Ils sont en situation de contrôle du fait même qu'ils paient. La femme est subordonnée. Il y a quelque chose là d'absolument tragique qui se passe.
Merci, Mme Dufault.
Je vous en prie, merci.
Et déjà, Donc, de retour à Sequoia 88.3 à Québec, vous écoutez Voix de Fait. Et puis, on en a touché brièvement un mot à la blague en début d'émission sur le fait qu'on était en équipe réduite cette semaine, un peu comme à l'image de la station. C'est que, bon, peut-être que vous l'avez entendu, peut-être pas aussi, il y a une crise en ce moment à Sequoia, Radio Basseville. En fait, depuis le début de décembre, il ne reste plus qu'un employé en poste à la station, Denis Roberge, notre valeureux technicien. Tout le reste est assumé par des bénévoles qui se sont mobilisés en grand nombre pour sauver la station depuis l'Assemblée générale qui a eu lieu la semaine dernière, où il y avait 75 personnes. En fait, c'est ça, il y a une situation critique au niveau financier, comme ça arrive une fois de temps en temps, sauf que là, c'est plus critique que d'habitude, et c'est la survie même de la station là, qui est en jeu si rien n'est fait. Heureusement, il y a quelque chose qui est fait. Il y a, comme je le disais, une mobilisation sans précédent des bénévoles, des producteurs et des amis de la station qui se passe en ce moment. C'est ça. Voix de Fait, Collectif Anarchiste la Nuit participe de cette mobilisation-là. On a envoyé un communiqué qu'on a fait circuler sur différents sites web, sur Facebook et tout. Et puis, en fait, c'est un appel aux progressistes à soutenir Sequoia et à devenir membre. C'est ça. Voilà. La station a besoin urgent de fonds et de soutien politique et de soutien humain, de solidarité, finalement. Puis, nous, on a essayé, dans les trois dernières années, de se solidariser avec pas mal toutes les luttes sociales dans la région de Québec. Puis, il paraît que vous êtes entre 50 et 60 000 à nous écouter par mois, à écouter la station par mois. Donc, si vous êtes si nombreuses que ça et que vous vous manifestez, on va se sortir la tête de l'eau et on va arriver à faire quelque chose. Alors, voilà, on vous invite à devenir membre le plus vite possible de Sequoia. C'est pas un montant énorme, c'est 20$ par année, 10$ pour les personnes sans emploi. Donc, à 20$ par année, en fait, ça vous donne toute une série de privilèges, là. Moi, celui qui m'intéresse personnellement tout le temps le plus, c'est le 10% de rabais à la librairie Pantoute, surtout dans cette période du temps des fêtes, c'est pas pire. Mais il y a aussi des rabais là, dans plusieurs endroits, dont notamment le Bal du Lézard, la Barberie, le Foubar, la Martin, le Café Babylone, tout ça. Et c'est possible de devenir membre de la station de plusieurs façons. Si vous connaissez là, des membres de Voix de Fait, la plupart ont des cartes de membres sur eux. Fait que vous pouvez nous interpeller. Si nous, on vous interpelle pas, parce qu'on est en train d'écœurer pas mal tous nos amis avec ça. Sinon, vous pouvez devenir membre aussi en allant visiter le site web de la station. Ça, c'est sequoiafm.org. C'est-tu bien ça? Je veux pas dire de conneries. Merde. Oui, sequoiafm.org. Là, si vous allez à devenir membre, il y a une possibilité, finalement, là, si vous avez une carte de crédit, de payer votre membership directement sur le site, là, via PayPal. Donc, c'est ça, c'est 20$. Puis, ça va nous aider beaucoup. Ça va nous permettre de mesurer notre appui dans la région. Puis, disons-le, là, le membership, actuellement, là, c'est notre principale source de revenus autonome. C'est important. Donc, si vous trouvez que ce que vous entendez sur Sequoia, ça vaut la peine de l'entendre, puis que vous voulez continuer de l'entendre longtemps, on vous invite à devenir membre de la station. Sur ce, c'est ce qui va mettre fin à cette édition de Voix de Fait. Juste vous dire que nous, on prend un congé de 3 semaines pour le temps des fêtes. Yeah. On revient dans la semaine du 10 janvier. Donc, c'est ça. Si vous vous ennuyez de nous, vous pouvez aller sur notre blog, Voix de Fait avec un X et un S.blogspot.com. Et longue vie à Sequoia.
Ouais.